Okapi Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Jody Daniel Kachamo. Okapi.
Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous servir. Comment faire de la jeunesse un moteur de changement social? On en parle dans cette émission de la vie au quotidien, Okapi Service. Nous avons Aline Tissia Mukuna, présidente du collectif Échangeons et patronne de la société La Boîte. Tissia Mukuna, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien au Capi Service. Nous allons également recevoir tout à l'heure Benjamin Mouemeri, coordonnateur de l'initiative 100 jeunes pages d'espoir, et Madame Chantal Moulop, conseillère spéciale du chef de l'État en charge de la jeunesse, sera également de la partie des questions et préoccupations. Appelez au 081 890 63 94. Écrivez-nous à service@radiocapi.net. Dans la deuxième partie de l'émission, nous allons parler de la taxe RAM sur les appareils mobiles. Quelle est son importance et comment prélève-t-on cette taxe? Eh bien, on en parle dans la deuxième partie de l'émission Okapi Service. Des questions et préoccupations, le standard est déjà ouvert. Composez le 081 890 63 94. Écrivez-nous également à service@radiokapi.net. Mimi Kindou est à la mise en onde. Tati Mapoukou assure la coordination et la réalisation de cette émission qui présente Jody Daniel Kachama sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Bienvenue à tous.
L'actualité en profondeur sur Radio Capi, c'est dans Grande Interview. Des questions politiques, économiques, sécuritaires et tout ce qui touche au vécu des Congolais sont abordées avec les acteurs qui font l'actualité et les spécialistes. L'actualité évolue et nous aussi. Toute l'équipe vous donne rendez-vous tous les samedis à 10h05, dimanche à 11h05 et mardi 14h15.
Et oui, encore une fois, bienvenue dans Okapi Service, votre magazine de la vie au quotidien. Aujourd'hui, nous parlons de la jeunesse comme un moteur de changement social. Eh bien, la jeunesse est l'avenir d'un pays, dit-on. En RDC, la population est composée à près de 60% des jeunes qui constituent une force à ne pas négliger, selon certains experts. Cependant, la situation des jeunes congolais est peu reluisante. De nombreux jeunes sont frappés par le chômage et la pauvreté. Certains pensent aller vivre à l'étranger, à l'extérieur. D'autres se lancent dans la délinquance juvénile et sont souvent manipulés par certains acteurs politiques pour des sales besognes. Certains jeunes instruits se sentent écartés des instances des prises de décision alors qu'ils ont de nouvelles idées, ils ont de l'énergie à apporter pour faire changer les choses. Eh bien, alors comment la RDC peut faire des jeunes un moteur de changement? Tissia Mukuna est présidente du collectif Échangeons et patronne de la société La Boîte. Tissia Mukuna, encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission Okapi Service. Alors, dites-nous, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui faire des jeunes un moteur de changement en République démocratique du Congo?
Alors, comment faire des jeunes un moteur de changement? Je pense qu'il faut tout simplement les inclure dans les débats, que ce soit des débats politiques, économiques ou sociaux. Il y a beaucoup de jeunes, justement, qui s'organisent, qui se réunissent. Le collectif Échangeons, on est la preuve. On a un collectif avec une moyenne d'âge qui tourne autour de 26-27 ans. Il y a d'autres collectifs comme le nôtre qui réunissent beaucoup de jeunes, qui essaient justement d'apporter des nouvelles pistes aux discussions, mais le problème, c'est qu'on n'est pas écouté de l'autre côté. On prend les jeunes comme ce moment de fougue, comme ce moment d'espoir, mais pas comme ce moment de solution. Et je pense que tant qu'on n'est pas inclus dans les prises de solutions, ça va être compliqué d'entendre les jeunes. Alors aussi le problème, si d'en avoir un second, c'est qu'on met tout dans la case jeunesse. On a une jeunesse avec un grand J. Au Congo, il est difficile de savoir qui est jeune, qui ne l'est pas. C'est-à-dire qu'on va dire jeunesse pour quelqu'un de 20 ans, 18 ans, jeunesse pour quelqu'un de 30, 35 ans, jeunesse pour quelqu'un de 40, 45 ans, jeunesse, jeunesse, jeunesse. Donc en fait...
Alors d'après vous, quand on parle de la jeunesse, il s'agit de quelle tranche d'âge?
Bon, alors j'aime bien la phrase qui dit que la jeunesse est un état d'esprit, c'est vrai. Mais pour moi, quand on parle jeunesse, on parle du moins de 35 ans. Après, je pense que on n'a plus de problème à nous faire entendre, ou même les moins de 40 ans, allez. On peut aller jusque-là, les moins de 40 ans. Parce que après, je pense qu'on a, on a déjà assez de bagages, hein, dans notre vie pour se faire entendre sans avoir l'impression d'être mis au second plan parce qu'on est jeune. La jeunesse, aujourd'hui, c'est vu comme une qualité, en théorie, mais en pratique, c'est vrai qu'il est difficile à ce qu'on nous entende, surtout dans les prises de solutions. On va penser qu'on n'a pas assez de maturité, qu'on n'a pas assez d'expérience. Alors, je suis contente de voir que notre Premier ministre a 43 ans. J'aime bien dire la phrase de l'honorable Patrick Meyer, c'est un vieux jeune, entre guillemets. Il est encore jeune, mais il est un peu plus de l'autre côté. Il faut encore plus de jeunes, des gens de moins de 40 ans, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, qu'on écoute juste comme ça, parce que voilà, on veut avoir un jeune sur un plateau télé ou sur une interview, mais on ne les entend pas quand il faut prendre les décisions et être assis autour d'une table ronde.
Bien, donc le grand problème, les jeunes sont souvent écartés dans les instances des prises des décisions. Alors, quels sont les autres problèmes auxquels les jeunes aujourd'hui sont confrontés et qui les empêchent de bien jouer le rôle de moteur de changement?
L'autre problème, c'est l'écosystème. C'est-à-dire, vous pouvez avoir le meilleur joueur de football, s'il joue sur des sables mouvants, il ne saura pas marquer un but. C'est son écosystème qui le permet d'être le meilleur joueur de football. C'est pareil avec la jeunesse. Vous pouvez avoir une jeunesse florissante, douée, capable. Si l'écosystème où cette jeunesse évolue ne le permet pas, la jeunesse ira nulle part. Donc, ce qu'il nous faut aussi, c'est garantir cet écosystème qui nous permet vraiment de se développer. C'est difficile, par exemple, de dire que la jeunesse est acteur de changement quand on n'a pas d'électricité, quand on a des coupures d'eau sans cesse, quand on ne sait pas joindre l'est du pays avec l'ouest du pays, le nord avec le sud. On a un écosystème tellement fragile et chaotique, hein, si on n'a pas peur des mots, que c'est difficile pour la jeunesse de se développer et d'être acteur du changement concrètement. Alors il y a des actions qui se font à petite échelle, mais il faudrait qu'il y ait une main plus forte que nos petites actions entre nous. Et la main plus forte, c'est forcément le gouvernement.
Merci à tous les internautes qui ont réagi par rapport à ces sujets sur la page Facebook de Capi Service. Charles Luanga nous a écrit, il dit ceci, les jeunes pourtant courageux dans l'entrepreneuriat ne bénéficient pas des prêts du ministère de l'Industrie ainsi que d'autres ministères. Les rares ONG qui essayent de soutenir les jeunes s'arrêtent au capital sans faire les suivis ni la formation, ce qui est différent de ce qui se passe dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Quelle est votre réaction, Titien?
Par rapport à ça, j'aimerais répondre quand même quelque chose. C'était vrai, il n'y a pas si longtemps. Aujourd'hui, a été mis en place le concours de plan d'affaires, le COPA, instruit par le ministre des PME et artisanat, donc les petites et moyennes entreprises artisanat, donc qui permet quand même aux jeunes entrepreneurs de moins de 35 ans et dont l'entreprise n'excède pas les 3 ans, d'avoir un prêt d'une moyenne, enfin une subvention, donc c'est-à-dire que c'est pas remboursable, c'est vraiment une subvention d'une moyenne de 15 000 dollars. Donc il y a des choses qui se font, Alors peut-être que la communication n'est pas encore assez forte, mais il y a des choses qui se mettent en place par certains ministères, notamment le ministère des PME cette fois-ci. Donc il faut rester à l'écoute, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas assez, contrairement à certains pays qui poussent vraiment l'entrepreneuriat, comme le Kenya ou l'Éthiopie. Mais on commence à aller vers cette voie-là. Donc j'invite tous les jeunes entrepreneurs à postuler. C'est quand même une moyenne de 15 000 dollars non remboursable pour lancer leur entreprise. Je pense que ce n'est pas négligeable.
Bien. Donc, mais nous savons que... Est-ce qu'on peut dire que l'entrepreneuriat est l'un des moyens pour aider les jeunes à être des moteurs de changement?
Déjà, tout le monde n'est pas entrepreneur pour autant. Ça, c'est une première chose. Donc, c'est pas l'entrepreneuriat qui va sauver la jeunesse dans le sens où c'est pas une voie, on va dire, anodine. Entreprendre, c'est une prise de décision, c'est un courage qu'il faut prendre, c'est un risque qu'il faut prendre parce que on met en place notre investissement personnel pour avoir des résultats. Donc, il faut pas avoir cette mauvaise idée de dire que l'entrepreneuriat est la solution à tout, qu'il suffit d'entreprendre, parce qu'il ne suffit pas d'entreprendre, l'entreprendre est taré. Après, je pense tout de même que c'est par l'entrepreneuriat, par ceux qui ont une bonne idée à défendre, par ceux qui ont cette appétence pour entreprendre et qui n'ont pas peur de ce risque, qu'on peut résorber des problèmes comme le chômage. Parce que c'est les entrepreneurs qui offrent du boulot à leurs concitoyens. C'est les entrepreneurs qui participent à l'économie d'un pays. Donc, c'est une belle voie de développement, mais c'est pas fait pour tout le monde et ce n'est pas grave si vous n'êtes pas entrepreneur. J'aime pas ce discours où on culpabilise les gens en disant devenir entrepreneur, comme si c'était une décision facile à prendre.
Bien, on va accueillir les auditeurs. Nous avons deux auditeurs en ligne. Platini Mbombo de Mbandaka et Germain Akili nous appellent des Butembo. Platini, bonjour.
Je dis bonjour. Bonjour les auditeurs. Je salue tous les jeunes à travers les pays.
Et on vous écoute, Platini. Comment faire des jeunes un moteur de changement? La jeunesse est un moteur de changement.
Voilà. Merci beaucoup, Jody. D'abord, je voudrais vous saluer pour la thématique d'aujourd'hui. Et la sujet est très intéressant, surtout nous qui sommes jeunes. Aujourd'hui, je voudrais un peu épingler quelques questions que je peux quand même vous dire. Vous allez constater que nous jeunes, parce que j'ai pas laissé, je suis aussi jeune, et aussi avec les amis, jeunes aussi à travers les pays, il s'impose un sérieux problème. Lorsque vous allez trouver que partout dans les postes de décision, il y a toujours le vieillard et aussi le vieil. Et aussi, si vous allez constater qu'au niveau des écoles, même aussi au niveau des universités, il y a beaucoup de jeunes qui étudient. Mais à la fin des comptes, on n'arrive pas à trouver vraiment les gains des causes. Et la thématique, comme vous avez dit là aujourd'hui, je ne sais pas là le mécanisme aujourd'hui que l'État peut mettre en place pour qu'aujourd'hui, demain, le jeune peut avoir un peu la capacité de créer soit l'autofinancement de lui-même. Là aussi, ça pose un sérieux problème. Alors, c'est que moi, je voudrais un peu demander la question, je crois qu'elle a conseillé le chef de l'État, elle est aussi avec vous, donc si lui peut avoir le mécanisme de proposer au niveau du chef de l'État, d'avoir un PC, soit un jeune, cherche un peu à créer soit un bureautique, tout ça. Mais à la fin du compte, vous allez voir qu'il y a beaucoup de taxes qui arrivent encore demander à ces jeunes-là. Et à la fin du compte, vous allez constater que ces jeunes-là, ils n'arrivent pas à s'évoluer par rapport à ça. Parce que comme il y a beaucoup de taxes, c'est surtout nous les jeunes, quand on cascade, surtout quand on voit les motards passer par là, et il y a une taxe qui bloque aussi que les jeunes n'arrivent pas à être comme un moteur de changement. Voilà un peu, je vous dis, ce que je voudrais un peu contribuer par rapport à ça.
Merci beaucoup.
Et aussi, si on peut avoir une loi qui peut permettre que si jeune commence déjà à créer son emploi, que l'État le laisse un peu tranquille, qu'il puisse quand même commencer, et la fin du compte, il peut commencer à payer. Mais si on commence maintenant là, directement le taxe arrive là, on ne peut jamais s'évoluer. Je ne sais pas si les vidéos peuvent nous répondre, si on peut avoir une loi au niveau de l'Assemblée nationale.
D'accord, merci. Des lois qui... Accorder peut-être des exonérations aux jeunes pour leur permettre d'évoluer dans leur business.
Voilà, j'ai dit exonération aux jeunes pour avoir un peu...
Merci beaucoup. On va donner la parole à Germain Akili de Butembo. Bonjour Germain.
Bonjour monsieur le journaliste, et bonjour à l'invité et bonjour à tous les auditeurs de Radio-Capi.
Quelle est votre question Germain?
Oui, le sujet est vraiment intéressant. Du point de vue et emploi, on trouve que la jeunesse est vraiment marginalisée. Partout dans tous les services, il n'y a que peut-être les personnes presque de troisième âge et il n'y a pas peut-être un mécanisme qui favorise la jeunesse à évoluer. La jeunesse est vraiment pointée de partout, que ce soit même dans les organisations. On demande les expériences, il faut avoir peut-être il faut 5 ans d'expérience, il faut cela. Maintenant, la jeunesse qui termine les études aura la place où? Il faut que peut-être notre pays, et comme nous avons un premier ministre jeune, qui va songer à valoriser la jeunesse, exporter la jeunesse dans tous les domaines possibles, parce que nous avons les soucis de développer peut-être le pays avec la jeunesse. La jeunesse paie. Et si on peut rénover peut-être la fonction publique surtout, à la fonction publique, il n'y a que peut-être des vieillards qui peuvent être remplacés par la jeunesse pour donner un nouveau vent de développer notre pays. Et la jeunesse est capable de se déplacer, de mener des recherches qui peuvent aider le pays à se développer. Il y a les vieux qui sont là, oui, les vieux là, disons, les plus âgés n'ont plus cette capacité de rénover. Ils sont là peut-être pour répéter et travailler peut-être moins, ils travaillent même moins que la jeunesse. Vous trouverez dans quelques services, dans d'autres bureaux, il y a même les gens là, comme disons, qui peuvent les dire peut-être à midi, à n'importe quel, mais parce qu'ils n'ont plus l'énergie de supporter, jusqu'à aux heures prévues par les textes.
D'accord. Merci, merci Germain de Boutembo. On va donner la parole à Bindou Maoumbi de Goma. Bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à l'invité, à tous les auditeurs qui sont branchés à pareil moment.
D'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire de la jeunesse un moteur de changement?
Oui, merci. L'élément moteur que j'aurais soulevé vient d'être soulevé même fois par mes prédécesseurs.
C'est quoi l'emploi des jeunes?
Oui, quand cela ne tient, j'aurais toujours à soulever cet élément, même si c'est déjà soulevé par beaucoup de mes prédécesseurs.
Quel est cet élément-là?
L'élément qui frappe la jeunesse de Nieta est l'expérience. Oui, avec l'expérience, un jeune qui vient fraîchement, soit d'une institution supérieure, université, on lui demande de présenter des expériences d'une année, de deux ans, comment il va faire pour avoir ces expériences lorsque ces premières années, il veut s'exploiter maintenant. Autre chose, j'interviendrai aussi dans la seconde partie de l'émission parce que...
D'accord, là, merci.
Beaucoup de questions.
Merci beaucoup. Alors, bien, Tissia Mukuna, vous avez suivi, beaucoup de jeunes sont revenus, ils se sentent exclus, marginalisés. Le chômage, bon nombre des jeunes sont au chômage. Et puis, il y a Germain qui propose qu'à la fonction publique, par exemple, beaucoup de travailleurs, des fonctionnaires de l'État ont pris de l'âge. Il faut amener beaucoup de jeunes, donner beaucoup de chance aux jeunes. Et cette question d'expérience professionnelle, voilà. Autant de problèmes. Tissia Mukuna, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces sujets?
De toute façon, il est clair qu'on peut pas faire sans la jeunesse parce qu'on connaît un boom démographique qui fait qu'on sera de plus en plus de Congolais, de plus en plus de jeunes qui vont arriver sur le marché du travail. Le boom démographique est très fort en Afrique et encore plus en RDC. Donc, on n'aura pas le choix que d'inclure les jeunes. Ça, c'est déjà une première chose. Mais les inclure dans quel écosystème? Est-ce que c'est les inclure dans un écosystème qui est chaotique ou est-ce que c'est les inclure dans un écosystème qui grandit? Ça, c'est déjà une première question. La deuxième serait que, effectivement, je rejoins les auditeurs de se dire qu'il faut inclure les jeunes, comme j'ai dit plus tôt, dans les prises de décision, parce que souvent, vous allez voir qu'on va parler des problèmes de la jeunesse, on va parler des problèmes que peuvent connaître les jeunes, sans être jeunes. C'est-à-dire que les personnes qui parlent de la jeunesse, en général, ne sont elles-mêmes pas jeunes. Laissez-nous prendre la parole, laissez-nous prendre des décisions et voyons voir si nous n'avons pas une autre façon de penser le monde. Et puis j'aimerais revenir sur la première intervention d'un des auditeurs qui parlait de l'exonération des impôts par rapport aux jeunes entrepreneurs. J'aimerais dire que pour moi c'est par rapport aux jeunes entreprises. C'est-à-dire que l'entrepreneur peut avoir 60 ans, s'il a créé une jeune start-up, il se doit d'être aidé par l'État. Donc pour toute jeune entreprise, il faudrait qu'il y ait une exonération d'impôts pour le laisser le temps en fait de se développer, de mettre en place sa stratégie commerciale avant de le coincer avec toutes sortes de taxes. Ça, je le rejoins à 100%. Il y a d'ailleurs une proposition de loi qui avait été menée à un moment donné, c'est le Startup Act, si je ne m'abuse. Où ça en est, je ne sais pas. Entre les quatre nouveaux gouvernements, j'espère que ça pourra avancer.
Bien. Vous êtes une jeune entrepreneur, vous avez une structure, la boîte qui fabrique... qui est dans le café qu'on appelle la Quinoise, la marque la Quinoise. Dites-nous comment est-ce que vous êtes lancé et comment vous arrivez à vous maintenir dans votre business.
Je me suis lancé avec des fonds propres, hein, des fonds personnels, c'est-à-dire que j'avais économisé quand même pendant 5 ans, je pense, avant de lancer ma société. Je suis pas bien vieille, hein, j'ai moins de 30 ans. Mais je savais déjà dès le plus jeune âge, même quand j'étais à l'école et que je faisais des stages, que je voulais être entrepreneur et que je ne voulais pas travailler pour le compte de quelqu'un d'autre, si ce n'est le mien. Et donc, avec mes économies personnelles, j'ai lancé ma marque. Ça m'a pris du temps. Il fallait commander des emballages, il fallait acheter quelques machines. Donc, ça s'est fait petit à petit, pas du jour au lendemain. Certaines personnes pensent que c'est du jour au lendemain parce que la marque est sortie en juillet 2020. Mais c'est un projet que j'ai depuis des années, sauf qu'avant, j'en parlais pas spécialement, vu que c'était en gestation. Et après, il faut aussi savoir identifier les aides que peuvent nous donner l'État ou d'autres structures. J'ai parlé tout à l'heure du concours de plan d'affaires, mais il y a aussi le code de l'investissement de la NAPI, qui nous permet d'être exonéré aussi d'impôts, qui nous permet d'être exonéré des frais de douane, pour tout investissement de plus de 10 000 dollars. Quand on fait de la transformation comme je le fais, c'est facilement une machine de transformation, donc on arrive très vite à ces montants-là. Donc il faut savoir, moi ce que j'appelle des tours de passe-passe, pour pouvoir souffler, que ce soit au niveau des taxes, que ce soit au niveau des aides financières. Donc il faut savoir identifier ces aides-là, parce que parfois l'information n'est pas assez démocratisée.
Bien, on va accueillir Benjamin Mouemeri, coordonnateur de l'initiative Jeunes sans jeunes, page d'espoir. Benjamin, bonjour.
Bonjour, Rudy.
Bienvenue dans cette émission. On est en train d'échanger avec Ticia Mukuna qui nous dit que beaucoup de jeunes sont exclus des instances des prises de décision. Les jeunes se retrouvent au chômage. L'écosystème ne permet pas aux jeunes d'évoluer et de jouer le rôle de changement social. Certains sont intervenus pour dire qu'aujourd'hui, les vieux bloquent les jeunes dans l'administration publique, par exemple. On n'offre pas beaucoup de chance aux jeunes ou dans la politique. Alors, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les jeunes jouent réellement ce rôle de moteur de changement social?
Bon, ce qui est vrai, c'est que toute nation a d'abord une vision sur sa jeunesse. Et une nation qui n'a pas une vision sur sa jeunesse, pour sa jeunesse, est une nation qui est en déperdition totale. Et assurons-nous que nous ayons une bonne éducation, parce que la meilleure éducation qui soit, c'est celle qui consiste à préparer l'avenir pour cette nation qui est celle sur laquelle on compte grandement et on rêve grandement son expansion et son essor, ou plutôt sa prospérité dans un futur proche. Et cette jeunesse et la génération là, qui est dépositaire des bien-être, cette prospérité pour cette nation. Et quand on n'a pas investi dans cet aspect des choses, on a peur de léguer une nation entre les mains d'une jeunesse qui est locale, côté éducation, côté extérieur, côté expertise qu'il faut pour pouvoir maintenir une nation sincère et appropriée. Et je pense que nous avons tellement visé côté éducation de cette jeunesse que nous avons peur. Bon, c'est vrai qu'à un moment donné, on a tendance à penser que ceux qui sont là en train de gérer présentement, ce sont ceux qui doivent se maintenir parce qu'il n'y a aucune autre génération qui doit remplacer parce qu'elle est incompétente.
Benjamin, est-ce que pour que les jeunes jouent ce rôle de changement, ils doivent absolument se retrouver dans la politique, dans le gouvernement, au Sénat ou au Parlement?
Non, pas nécessairement. Parce que vous voyez ce que nous sommes en train de faire au niveau des initiatives sans jeu dans l'espoir, c'est de démontrer à la race du monde qu'il n'y a pas que la politique. Il y a ces jeunes gens-là qui se sont vraiment déportés dans différents domaines, notamment l'entrepreneuriat communautaire, Tichamou Koumaï est en train de le faire. Il a lancé sa son entreprise, la Quinoise. Il est en train de faire dans un domaine où carrément on pensait que c'est ce que deux vieux qui peuvent le faire. C'est inimaginable de voir une jeune dame de son âge lancée dans l'entrepreneuriat et encore immensément dans le secteur du café. Et pourtant, il y a d'autres jeunes qui pullulent de toute l'étendue du pays. Nous avons eu la chance de rencontrer des jeunes gens qui sont millionnaires en dollars à moins de 30 ans. Est-ce qu'on les connaît? Est-ce qu'on les a répertoriés? Et ils ne sont pas en politique, ils ne sont pas députés, ils ne sont pas sénateurs, ils ne sont pas les petits Tinda de ces politiciens qui sont en train de piller chez nous. Je crois que le développement durable aujourd'hui nous donne beaucoup de poches de développement, beaucoup de poches d'investissement où les jeunes peuvent se démontrer à même de pouvoir relever les défis chaque jour et à chaque instant. On a les questions de santé. On a le numérique aujourd'hui qui est en train de prendre l'ampleur et ça accompagne tous les secteurs de développement au niveau du pays et de par le monde entier. Le numérique est dans le secteur santé. Le numérique est dans le secteur de mine. Le numérique est dans le secteur de l'agriculture. C'est un domaine qui est là et qui est en train d'être approprié par les jeunes. Aujourd'hui, l'Internet, aujourd'hui, l'ordinateur, les applications, c'est plus un secret pour ces jeunes gens. Ils ont 18 ans, ils ont 20 ans, ils ont 25 ans. Et ça, c'est vraiment un aspect que ces jeunes gens se sont appropriés. La politique, c'est vrai que ça nous donne la possibilité d'avoir un horizon qui réluit, un horizon qui donne l'espoir à des générations présentes. Mais ce n'est pas le seul domaine où on doit faire. L'innovation, c'est ailleurs. La politique, c'est pour nous donner un cadre où tous ces secteurs, où tous ces acteurs qui sont dans différents secteurs doivent se mouvoir. La politique, ça nous donne juste la possibilité d'avoir des stratégies nationales, des stratégies qui sont un peu plus en connivence avec notre bien-être.
Benjamin Mouemeri, beaucoup de jeunes aujourd'hui sont au chômage juste après l'université. On fait la collation des grades, c'est la fête, et après le chômage, vous vous retrouvez en face du chômage. Beaucoup de jeunes se plaignent. Il y a des offres qui se présentent. Vous allez là-bas, on vous dit il faut 5 ans d'expérience, alors qu'ils n'en ont pas. Alors beaucoup de jeunes sont découragés aujourd'hui et certains ne pensent qu'à aller à l'étranger et vivre ailleurs.
Bon, ce qui est vrai, c'est qu'il y a depuis 20 ans, l'expérience est belle. C'est vrai que
Benjamin, on vous entend pas très bien. Je ne sais pas si vous avez...
Je dis ceci, oui. Vous suivez?
Oui, ça va, allez-y. Vous avez activé la main libre?
Non, j'ai les écouteurs, évidemment.
Ah non, s'il vous plaît, veuillez utiliser directement votre... Mais là, ça va, allez-y quand même, on vous entend très bien, c'est bien.
Je disais ceci, la question qui consiste à ce que les jeunes puissent avoir une expérience possible pour être embauchés, c'est une question qui date de plus de 20 ans. Moi, depuis un temps, face à ces difficultés, j'ai dit aux jeunes étudiants, n'attendez pas que vous finissiez les études pour avoir une expérience. Dès le premier graduat, chercher à faire des petits boulots, ce n'est pas en non-adhésion avec les cursus universitaires. Acquérir des petites expériences déjà dès que vous commencez l'université, ça vous permettra qu'au finish, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui, avant d'avoir fini les cursus universitaires, ils ont déjà des petits jobs. Ah, c'est dans le chef de l'étudiant. Mais nous avons aussi une possibilité au niveau du pays en tant que nation. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous voyons des jeunes Canadiens qui quittent le Canada, qui viennent ici en RDC et qui viennent à acquérir des expériences dans des ONG canadiennes? Ça, c'est une stratégie que le pays canadien a mis en place. Qu'est-ce qui manque à ce qu'aujourd'hui, le gouvernement se dise, toutes les entreprises qui fonctionnent aujourd'hui, est-ce qu'il y a possibilité d'engranger une proportion donnée des jeunes étudiants qui sont en train de finir et vous engager autant
et nous vous exonérons avec autant. C'est faisable. Qu'est-ce que cherche un pays finalement? N'est-ce pas caser sa jeunesse? N'est-ce pas avoir une jeunesse qui contribue au développement de ces pays? Moi, je pense que nous avons beaucoup de possibilités pour faire en sorte que ces jeunes soient en train d'être utilisés de manière bien. Il suffit juste de penser et de voir grand. Comme je l'ai dit tantôt au début, on doit avoir une vraie politique, une vraie vision pour cette jeunesse. Parce que quand on a une vision, on sait comment s'y prendre. Et les solutions sont là. Elles sont là, elles sont là. On n'a plus à chercher. Elles sont là. C'est des solutions qui réussissent au Cameroun, qui réussissent en Côte d'Ivoire, qui réussissent au Sénégal. Voyons comment ailleurs ça fonctionne.
Benjamin,
et nous, ça fonctionnera.
D'accord. Un instant, on va accueillir Malunga de Bandundouville. Bonjour Malunga.
Bonjour Jody. Bonjour à tous ceux qui nous suivent, à nos invités là-bas.
On vous écoute.
Ok, merci beaucoup. Jody, en tout cas, félicitations pour choisir ce sujet qui nous intéresse beaucoup, nous les jeunes, qui souffrons, qui peinent vraiment dans notre propre pays. Vous voyez ce que vous dites là, cela est vrai qu'un jeune ne peut pas travailler seul sans l'expérience de vieux, c'est ça. Mais ce qui nous coûte aussi dans notre pays, dans nos administrations publiques, la politique de la remise à la retraite n'existe pas. Raison pour laquelle il y a vraiment un tiraillement entre la jeunesse et ceux qui ont déjà fait longtemps dans le service. Vous voyez, je vais vous rappeler. Vous voyez, lorsque le président honoraire était passé au pouvoir, il était jeune. Nous, les jeunes de cette époque, nous étions joyeux que non, en tout cas, nous serons tous inclus dans la jeunesse, mais accompagnés avec certains vieux pour l'expérience. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Il a recruté tous les anciens, La jeunesse était restée. Aujourd'hui encore, le premier ministre est supposé jeune. Mais on va voir encore là-bas, c'est la masse de la jeunesse. Ce n'est pas que la jeunesse haïsse les vieux. Non, nous ne les haïssons pas. Mais il faut nous mêler, que la jeunesse soit nommée. Dans d'autres cieux, c'est au niveau des universités qu'on tire la jeunesse. À la dernière promotion, on va demander à l'économie, au droit, au tout ça, pour que ces jeunes qui vont bientôt terminer là-bas se déversent dans des administrations. Mais dans notre pays, ça ne se fait pas. Bon, le recrutement ici, il y a des conditions, 5 ans d'expérience, c'est ça, tout ça, tout ça, tout
oui.
ça. Or, l'expérience, je vais le tirer où?
Malunga, d'accord, merci beaucoup. Et rapidement, quelle est la question que vous adressez aux invités, rapidement?
Bon, la question, aujourd'hui, la réforme est là. Nous le voyons. Avec le gouvernement qui va bientôt sortir. Qu'est-ce que nous, les jeunes, nous pouvons attendre pour ce gouvernement ici?
D'accord, est-ce merci.
Nous serons vraiment introduits ensemble avec ce vieux ou bien nous serons encore à l'oubliette comme nous l'avons déjà dit.
D'accord. Tissia Mukuna, est-ce que avec le gouvernement qui va bientôt être mis en place, quelles sont les attentes des jeunes? Est-ce qu'on doit retrouver beaucoup de jeunes dans ce gouvernement? Tissia Mukuna? Tissia, vous avez la parole.
Pour cette jeunesse qui, comme je le dis, est grandissante avec le boom démographique que l'on connaît. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est qu'il faut aussi qu'on change nous-mêmes, les jeunes, notre état d'esprit d'être toujours dans l'attente à ce que quelqu'un vienne nous aider, nous mettre enfin quelque part. Il faut aussi qu'on saisisse aussi les opportunités, qu'on les arrache même. Je ne suis pas de l'école où je vais forcément attendre que les gens fassent quelque chose pour moi. Donc, il ne faut pas qu'on se dise, oui, mais regardez, on ne nous a pas inclus ici, on ne nous a pas inclus là. Incluons-nous nous-mêmes. Avec les changements, c'est ce qu'on essaie de faire, par exemple. On ne nous inclut pas dans les débats, sociaux. Nous débattons sur les sujets sociaux entre nous et on arrive à réunir 200, 300, 400 et encore plus de personnes. Mais ça veut dire que quand on ne nous inclut pas, on peut quand même faire le changement. Le changement, ce n'est pas forcément la politique. Le changement, ce n'est pas forcément dans ce nouveau gouvernement. C'est tout ce qu'on peut faire, que ce soit dans notre quartier, dans notre rue, dans notre commune ou dans notre ville. Donc il faudrait qu'on arrête d'être dans l'attente à ce qu'on nous invite quelque part parce que personne ne va nous inviter. On a dit, les places sont chères, il y a des papas et des mamans qui ne veulent pas céder leur place. Alors créons-nous aussi notre cercle d'influence.
Si, si, mais il existe un ministère de la jeunesse. Est-ce qu'avec le ministère, il n'y a pas beaucoup d'opportunités pour les jeunes?
Écoutez, moi, je parle plutôt des actions concrètes. Je vous ai dit, je n'ai pas de mal à saluer le gouvernement quand les choses sont bien faites. Je vous l'ai dit, il y a le ministère des PME qui a mis en place le concours de plan d'affaires, c'est une bonne chose. Après, le ministère de la jeunesse en tant que tel, je n'ai pas souvenir d'une action concrète. Alors, c'est bien de pouvoir avoir un ministre accessible, de pouvoir entrer dans son bureau et faire une jolie photo, mais moi, je parle d'actions concrètes pour la jeunesse. Benjamin l'a dit tout à l'heure, on pourrait aussi les inclure pour qu'ils aient de l'expérience, même pendant leur période d'études, mais c'est pas des actions qui ont été faites, ce sont que des idées que nous avons. Qui nous écoute en face, je ne sais pas.
Bien. Merci Ticia Moukouna, présidente du collectif Échangeons et patron de la société La Boîte. On va accueillir tout à l'heure Madame Chantal Moulop, conseillère spéciale du chef de l'État en charge de la jeunesse, et nous dira un peu plus par rapport à cette question. Merci Ticia, excellente journée et à la prochaine.
Merci à vous.
Bien. Benjamin Mouemeri, vous êtes coordonnateur de l'initiative 100 jeunes pages d'espoir. Alors parlez-nous de cette initiative. De quoi s'agit-il, Benjamin?
Sans jeune parle d'espoir, en fait, c'est l'initiative qui consiste à reconnaître le mérite de ces jeunes qui font les beaux visages de ces pays sans être connus du tout. Parce qu'il a été démontré à suffisance que nous avons du mal à voir ce qui va mieux au pays. La RDC, c'est un pays qui survit chaque jour, qui va à l'avant chaque jour, mais on a tendance à penser qu'il n'y a que de la guerre, il n'y a que les conflits. Alors, sans jeune parle d'espoir vient mettre à la face du monde des initiatives qui font avancer la communauté, qui font en sorte que la communauté est en train de vivre une vraie résilience et aide l'avant. En même temps, ces initiatives que ces jeunes sont en train de mettre en implémentation dans leur communauté contribuent à l'atteinte des objectifs de développement durable. Alors, par édition, nous présentons à la face du monde 100 initiatives. 100 initiatives avec 50 filles, 50 garçons sur toute l'étendue du pays ainsi que de la diaspora. Mais ceux de la diaspora doivent avoir des actions de développement dans l'une des 26 provinces de la RDC. Alors, ça ne s'arrête pas seulement au fait de présenter ces 100, mais il faut organiser aussi les renforcements de capacité de ces 100. Parce que ce sont des jeunes entrepreneurs communautaires qui, certains savent qu'ils sont entrepreneurs, d'autres non, pas du tout. Parce qu'ils se sont lancés dans l'agriculture, ils se sont lancés dans la pisciculture, mais ils emploient des gens. En même temps, ça crée un bon cycle de développement dans les chefs des gens. Alors cela, on doit les renforcer soit en gestion axée sur les résultats, soit en branding. Ils doivent promouvoir ce qu'ils sont en train de faire, soit en tout ce qui est rédaction de plans d'affaires et implémentation d'un plan d'affaires, tous les aspects liés au développement durable, parce qu'on doit les initier à ce qu'ils soient en train de contribuer de manière directe à un indicateur ou à une cible telle que priorisée au niveau national. Ça, c'est sans jeune parle d'espoir.
Vous pouvez nous donner, par exemple, un exemple ou deux exemples des initiatives des jeunes qui ont été primés au cours de cette initiative?
Notamment, Mme Tissi a été nominée lors de la deuxième édition. Elle a été nominée. Après ça, Tissi a été nominée parce que nous avons 10 thématiques que nous avons toujours ressorties qui sont vraiment en droit de connivence avec la tête des objectifs de développement durable. Donc, nous avons les aspects liés à l'entrepreneuriat pour la lutte contre la pauvreté. On a les aspects liés aux médias pour les changements. On a les aspects liés aux technologies, solutions par les tech et innovation. On a les aspects liés à l'environnement et changement climatique. En tout cas, on a 10 thématiques qui sont en droite ligne avec l'atteinte des ODD et qui nous permettent de ressortir, parce que c'est la communauté qui nous propose les profils. Quand on nous dit que Mme Tissia, qui vient dans telle communauté, a fait avancer un processus donné, emploie des gens, et en tout cas, c'est déjà quelque chose, parce que quand on emploie des gens, ça veut dire qu'on lutte déjà contre la pauvreté. Et c'est la communauté qui nous propose les noms de Tissia, et nous, on descend sur le terrain pour se rendre compte de ce que Tissia est en train de faire, et un jury qui valide, en fait. Donc, c'est la communauté qui propose les profils, tous les sens, ils sont proposés par la communauté. Et à partir de ça, nous avons certains jeunes, d'ailleurs si aujourd'hui vous vous déportez sur notre plateforme réseaux sociaux, sans jeunes pas d'espoir,
sur Facebook, sur Twitter, vous allez voir les profils de ces stars qu'on nous a reconnus, qu'on venait de reconnaître à la deuxième édition. En tout cas, ça nous permet de ressortir une toute autre face de la RDC,
oui.
Et pas seulement en nous cantonnant sur ce qui ne va pas. Et nous nous disons que, en tout cas, les 15-35 ans sont en train de contribuer de manière directe ou indirecte au développement du pays, parce que s'il n'y avait pas quelque chose qui se faisait de bon chez nous, ce pays disparaîtrait. Alors, au lieu de nous étendre sur toute la population, on s'est dit, et si nous nous cantonnions seulement sur les 15-35 ans? Donc, c'est ça, sans jeune page d'espoir.
Voilà, sans jeune page d'espoir. On va accueillir à présent Madame Chantal Moulop, conseillère spéciale du chef de l'État en charge de la jeunesse et lutte contre les violences faites aux femmes. Madame Chantal Moulop, bonjour.
Bonjour, comment allez-vous?
Nous allons bien, merci. Bienvenue dans Okapi Service. Aujourd'hui, nous parlons de la jeunesse comme moteur du changement social. Alors, Madame Chantal, quelle est la vision du chef de l'État pour justement faire des jeunes, de la jeunesse congolaise, un moteur de changement social?
Le président de la République, dans son programme, il met beaucoup d'accent sur la jeunesse. Et surtout quand on regarde bien dans son programme, dans son programme national, dans le pilier, je pense, 11 ou 12, il insiste surtout sur la promotion de la jeunesse. Et dans la promotion de la jeunesse, on doit regarder tous les aspects de la jeunesse. C'est-à-dire, on regarde l'entrepreneuriat des jeunes, la création d'emplois, l'éducation, la politique de la jeunesse. On regarde aussi ce qui se passe avec les jeunes désœuvrés, les jeunes vulnérables, les déplacés de guerre, les Kuluna, les Chege, comme on les stigmate, les jeunes qui vivent dans les milieux ruraux, les milieux urbains, et on se focus aussi sur les jeunes qui sont dans les confessions religieuses, parce que on se rend compte que 80% de la jeunesse appartiennent à les différentes confessions religieuses. Et on regarde les enfants qui sont dans les mines, qu'est-ce qu'il faut apporter pour faire sortir ces enfants-là dans les mines, quel genre d'activités on peut amener dans les terrains dans les zones minières. On regarde les jeunes sportifs, on regarde nos jeunes motards, ce qu'on appelle les wewa. C'est-à-dire, les jeunes motards, on nous dit souvent que ce sont des entrepreneurs, et comment est-ce qu'on peut travailler dans pour leur assurer une bonne sécurité et une bonne protection. On regarde les jeunes qui sont dans la diaspora. Souvent, on nous dit, les jeunes de la diaspora, ce sont des Congolais. Comment est-ce qu'on peut les faire venir au Congo? Comment est-ce qu'on peut les aider, ceux qui sont les entrepreneurs? Comment est-ce qu'on peut les aider à aimer le Congo, à venir pour les vacances, à venir voir les familles qui sont ici? Et en plus, comme je disais, la formation des jeunes est pour en finir avec le chômage. On regarde la santé de la jeunesse. Dans la santé de la jeunesse, on regarde la santé sexuelle et avec les maladies sexuellement transmissibles, mais aussi la santé mentale. On a constaté plusieurs fois qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans la drogue, dans les cigarettes, les drogues douces, les drogues fortes, et qui ont des problèmes de dépression, ceux qui n'ont pas pu se trouver de l'emploi, comment arriver à les aider dans tout ça. On regarde le problème de DDR, on regarde aussi les problèmes des jeunes qui sont dans les camps militaires, parce que ce sont ces jeunes-là qui sont souvent très proches des armes, et ils sont facilement
recrutés, ils sont dans les rangs. Oui.
Pardon?
Ils sont facilement recrutés, ils se retrouvent dans les rangs.
Donc voilà, ils se retrouvent dans les gangs. Alors on regarde ce côté-là aussi, mais on oublie aussi les enfants qui sont nés de viol. Et les enfants qui sont nés de viol, après nos deux guerres, il y a eu beaucoup d'enfants qui sont nés de viol et qui sont devenus des jeunes adultes. Et ces jeunes-là, souvent, ils sont recrutés par les milices. Comment est-ce qu'on peut aller les chercher, les désarmer et puis les réinsérer dans la communauté? C'est tout ça que le président est en train de regarder dans tout ce qui est aspect de la jeunesse. Mais le plus grand problème qu'on a, c'est vraiment la création d'emplois pour nos jeunes. Les jeunes qui finissent les universités, les jeunes qui finissent les instituts supérieurs, ou les jeunes qui ont fini les études plus tôt parce que bon, il n'y avait pas assez d'argent pour les parents pour payer leurs études. Et ces jeunes-là ont besoin d'emploi. Et on sait que l'administration publique qui devrait créer l'emploi. L'emploi devrait devenir des entreprises et si les entreprises ne peuvent pas créer des emplois, c'est renforcer l'entrepreneuriat des jeunes, avec des formations, avec des le fonds de garantie, avec des crédits. C'est tout ça qu'on doit pouvoir amener à ces jeunes-là. Mmh. Voilà.
On va accueillir à Kachai, un jeune de Kanyuka. Kanyuka. Kachai, bonjour.
Bonjour, monsieur. Je dis Daniel Kachama et bonjour à madame l'invitée.
On vous écoute.
Merci beaucoup, monsieur Jody. Les sujets nous concernent nos jeunes qui sont aujourd'hui déconsidérés par les vieux, qui s'accaparent de tous les postes administratifs, ministériels. Les vieux sont partout. Les jeunes sont abandonnés, exclus. Nous sommes d'ailleurs méconnus par le gouvernement. C'est pourquoi même si madame parle de la drogue, les chichampas, les mines, l'insécurité, l'armée, que les jeunes sont en train de faire, c'est parce que nous n'avons pas un encadrement. Là où vous voulez aller, monsieur Jody, on vous dit que non, tu n'as aucune expérience administrative. Si on te laisse la place, tu vas faire quoi? Alors, beaucoup de jeunes ici, nous sommes dans les bayanda. Je ne sais pas si vous comprenez bien le terme bayanda. Beaucoup de jeunes, quand ils n'ont pas d'emploi, ils sèment la terreur, l'insécurité, parce qu'ici, d'ailleurs, quand il y a l'insécurité dans la ville de Kananga, bon nombre de ceux-là qui sont arrêtés, ce sont les jeunes, monsieur, je dis.
Les bayanda, ce sont les jeunes qui transportent les marchandises sur les vélos, les sacs de maïs, c'est ça?
Les jeunes, vous l'avez bien dit, les jeunes qui transportent des marchandises, qui montent des collines, et parfois les poids qu'ils transportent là dépassent leur propre poids.
D'accord. Moi, quelle est la question? Oui, rapidement. Quelle est la question que vous adressez à madame Chantal Moulop?
Monsieur, je dis, c'est vrai. Le plus sûr moyen qui rend les jeunes incapables, vulnérables, c'est les accoutumer à tout obtenir. Et l'intelligence des jeunes aujourd'hui est caractérisée par l'incompréhension de la vie naturelle. C'est pourquoi moi je voulais demander à madame, maintenant que nous avons un premier ministre jeune, comme on le dit, mais il sera étouffé par le grand, par le vieux.
Comment ça?
Oui, mais
d'accord.
Ceux-là qui sont dans l'Union sacrée ne sont pas des jeunes, sont des vieux.
D'accord, merci.
Que là, va chercher son propre, les postes pour les jeunes, soit il va chercher son positionnement.
D'accord, merci. On n'a plus beaucoup de temps. Benjamin, rapidement, est-ce que vous avez une préoccupation ou un complément?
Évidemment, il y a toujours une préoccupation parce que la question d'emploi est vraiment récurrente au niveau de la jeunesse. La chose est que on doit à tout prix trouver une vraie solution par rapport à cette question d'emploi des jeunes. Et pourtant, les solutions sont là. Il suffit juste de prendre à bras la vraie question et de trouver une solution. Les solutions sont là. Le gouvernement a mis en place des mécanismes, notamment les groupes consultatifs pour l'emploi des jeunes qui existent avec le plan d'action national pour l'emploi des jeunes. C'est un plan qui existe et qui n'attend que la mise en œuvre par le ministère du Travail et par, je parle du gouvernement. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être faites, surtout que les solutions sont déjà là, il suffit juste de les appliquer. Mmh. Donc, je crois aussi que nous avons la possibilité de rendre cette nation grande, il suffit juste de penser, de rêver plus grand, au-delà de notre bout de nez et de voir plus long au-delà de notre bout de nez. Et je crois que nous avons la chance d'avoir un président qui pense déjà à la jeunesse. Nous avons la chance d'avoir un premier ministre jeune. Et ça, nous remercions les chefs de l'État pour avoir songé à cette chose. Et nous avons aussi la chance d'avoir un premier ministre qui a été au ministère de la jeunesse parce qu'il a géré ses ministères et il a vu les vrais défis qu'il y a au niveau de ses ministères. Et je crois qu'en tant que tel, il va vraiment doter à ses ministères des vrais moyens qu'il faut pour faire en sorte que cette jeunesse soit vraiment le vrai fer de lance de développement.
Bien, merci.
Je salue madame la conseillère parce qu'elle a été la marraine de la deuxième édition des 100 jeunes par l'espoir. Et je salue tous les jeunes congolais qui sont en train de nous suivre en ce moment et je leur dis seulement croyons vrai et rêvons grand pour ce pays. Demain est meilleur. Et faisons foi en ce gouvernement que les choses vont aller toutes bien. Mais ne laissons pas toute la tâche au gouvernement parce que nous aussi, nous avons beaucoup de choses à faire par rapport à nous-mêmes. Voilà, donc n'attendons pas que le gouvernement fasse tout parce que le gouvernement, c'est juste des personnes qui sont en train d'animer.
D'accord. Merci Benjamin. On va donner la parole à madame Chantal Moulop. Il y a un auditeur qui a posé la question de savoir est-ce que madame peut parler du rôle de l'ONEM, l'Office national de l'emploi? En plus, existe-t-il un plan concret pour la promotion de la jeunesse à la présidence? Madame Chantal Moulop. Allô, Madame Chantal? Voilà, elle n'est plus en ligne. Je crois que Tati va faire rapidement pour l'avoir encore en ligne. On va tenter de la rappeler. Il y a un internaute a réagi, nous dit ceci. Le gouvernement congolais doit inéluctablement accompagner les jeunes en leur accordant des subventions, des postes de responsabilité, aux besoins des formations et éducation, car c'est elle qui constitue l'épine dorsale même de l'avenir de la nation. Et cet avenir ne peut être rendu meilleur que si l'on y travaille aujourd'hui en faisant participer activement les jeunes à cette noble cause, notamment. C'est Constantin Kayungu depuis Lubumbashi dans la province du Haut Katanga. Benjamin, une réaction?
Je crois que c'est vrai, la jeunesse, c'est cette génération qui rêve actuelle, qui rêve des solutions qui sont actuelles par rapport aux vrais défis qui se posent présentement. Et je pense que toute nation doit travailler sur base de ça. Nous vivons l'actuel, nous vivons le futur. Et cette jeunesse représente l'actuel et le futur. Jamais auparavant, on a eu une génération de jeunes qui sont tellement en actualité par rapport aux vraies solutions que nous avons. Nous avons une jeunesse tellement ouverte à beaucoup de choses, tellement ouverte à beaucoup de solutions, qui n'attend que être utilisée, qui n'attend qu'être à inviter autour de la table pour ressortir ce qui est là en tant que solution. Et je crois que nous avons intérêt à travailler avec.
D'accord, Madame Chantal. Merci, Benjamin. Madame Chantal, vous êtes en ligne?
Oui,
il y a eu quelques questions. Par exemple, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport au travail de l'ONEM, l'Office de national de l'emploi? Et puis, est-ce qu'il existe un plan concret de promotion de la jeunesse au niveau de la présidence de la République?
Bon, pour l'ONEM, je pense qu'ils font du bon travail. Ça fait depuis des années qu'ils sont là. Ils essaient de trouver des solutions. Vous devez savoir que dans tous ces services qui travaillent pour la jeunesse, c'est comme je disais aussi pour les services qui travaillent dans tout ce qui est genre et violence faite à la femme, on ne donne pas assez de moyens pour que ces services-là puissent s'éclore et faire du bon travail. Pour faire du bon travail, malheureusement, on a besoin de financement. Et ces financements n'arrivent pas au bon moment, ces financements sont gelés quelque part, ce qui empêche les gens de pouvoir faire du bon travail et d'accomplir leur mission. Quant au programme à la présidence, il faut savoir que...
Un plan concret de promotion de la jeunesse.
Un plan concret de promotion de la jeunesse, bon, je peux dire que la présidence n'est pas là pour mettre en place des plans, comme vous êtes en train de dire, ça c'est au ministère de la jeunesse. Nous, on est là, on est comme entre le président de la République et le ministère de la jeunesse, appuyer de ce que le ministère de la jeunesse est en train de faire et amener le message vers le président de la République pour que le président de la République puisse voir comment est-ce qu'il peut diriger ça avec le ministère de la Jeunesse selon le programme que le président a mis en place. Mais nous, c'est qu'on est là, on est l'œil, on est la voix pour le président de la République. On a un plan stratégique, oui. On a un plan stratégique qui est peut-être divisé à peu près en 7 axes qui nous permet de pouvoir avoir l'œil dans tout ce qui se fait. C'est-à-dire le plan stratégique, comme je dis, il comprend tout ce qui est jeune entrepreneuriat, qu'est-ce qu'on peut faire avec les jeunes entrepreneurs, et de là aller voir avec le ministère des petites et moyennes entreprises, avoir des discussions avec les jeunes entrepreneurs et voir si on a accompli notre mission de ce côté-là. On regarde aussi pour tout ce qui est jeunes désœuvrés. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les jeunes désœuvrés? On regarde avec le ministère des Affaires sociales. C'est, dans notre domaine, c'est pas toujours directement avec le ministère de la jeunesse. C'est vraiment transversal.
Hein,
le ministère du sport, on regarde avec les jeunes sportifs, qu'est-ce qui se passe, et puis on essaie d'appuyer le ministère.
Madame Chantal,
selon le programme du président.
D'accord. Oui. On n'a plus beaucoup de temps. On aura l'occasion de revenir là-dessus prochainement avec vous. Merci d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission. Nous disons également merci à Benjamin Mouéméry, coordonnateur de l'initiative 100 jeunes pages d'espoir. Tout à l'heure, nous allons suivre les informations et on va se retrouver dans la deuxième partie d'Okapi Service pour aborder un autre thème. On va parler de la taxe RAM sur les appareils mobiles. Appelés au 081 890 63 94 pour participer.